Et cette parole, elle n'est pas nouvelle. C'est pas une parole nouvelle. C'est une parole qu'on a déjà entendue. Que j'ai entendue maintes fois dans ma vie, je dirai après. Mais voilà. Par deux fois, je l'ai eu ce week-end. J'ai demandé au Seigneur de guider. On était présents, Yann était là, à une soirée de prière au Carme, jeudi soir. Il y avait une parole forte à la fin de ce temps. Une parole de connaissance. Et j'étais sur Internet ce week-end. Et je vais rarement sur Top Chrétien, presque jamais. J'ai dit, tiens, là, je vais regarder ce qu'il y a. Et c'était exactement la même parole, enfin le même verset biblique. Je dis, bon, ok Seigneur, c'est bon, ça va. C'est là-dessus qu'il faut méditer. Et cette parole est celle-ci dans Apocalypse 3, verset 7 et verset 8. C'est une des sept lettres aux églises. Et on va méditer un peu là-dessus. J'ai demandé au Saint-Esprit de m'enseigner, de me réenseigner à nouveau. Et voilà, pour que ça puisse être vraiment une nourriture pour nous. Hein. Un encouragement puissant. Il y a un encouragement puissant dans ce que dit Dieu là, dans cette parole. Verset 7. Hop là. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Je crois que Philadelphie, c'est proche de amour fraternel, hein, quelque chose comme ça. J'ai vu ça quelque part, ouais, ça veut dire. Ouais. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Parce que tu as peu de puissance. C'est bizarre, hein? On pourrait dire que c'est un défaut, hein, de manquer de puissance. Pas une qualité. Il y a d'autres passages qui disent sois puissant. Parce que tu as peu de puissance. Bien sûr, on va essayer de comprendre ce que ça signifie. J'ai ouvert une porte devant toi. Alors, je suis convaincu que c'est une parole pour nous ce matin, hein, par le contexte. Je rappelle un petit peu la place importante de cette parole, un peu dans mon histoire et dans l'histoire de Wavrin aussi, de l'Église. Je me souviens, le Seigneur m'a rappelé hier que j'ai entendu cette parole par quelqu'un que je vais voir bientôt, on va voir Joël ensemble, Tony Sperandeo en Israël. J'étais, alors il y a bien plus de 20 ans, j'étais à Lille, en train d'évangéliser dans le café-bar de Lille. Et Tony Sperandeo est venu nous rendre visite. Et puis il m'a écrit peu de temps après, il dit « J'ai reçu ça pour vous. » Alors pour vous, c'était pas pour moi, mais c'était pour vous, pour l'eau vive, hein, l'Église. Et j'ai reçu cette parole. Et c'est curieux, Dieu m'a remis en mémoire cette parole hier. Donc cette parole, j'ai mis devant une porte ouverte. Et quand je regarde cette Église, à qui s'adressait cette parole ? À l'époque, c'était une petite église, et dans les années qui ont suivi, c'est une église qui est passée par des périodes creuses. Une église qui, à un moment, comme ça a été le cas pour nous, un peu, juste hier peut-être, n'avait plus d'enfants. Il y avait une première famille qui est arrivée de nouveau avec des enfants. Et on a visité cette église il n'y a pas longtemps, Louvi, puisque c'est notre église mère, on vient de cette église. Donc c'est une église qui a passé par des périodes creuses, mais des gens ont été fidèles. Fidèles, il y a un groupe de fidèles là, vraiment. Et à l'heure actuelle, le dimanche où on est allé, c'est une église débordante. Il y a 5 ou 6 groupes de louanges. Il y a, je ne sais pas combien d'enfants, 20 ou 30. J'ai dit, mais Seigneur, cette parole s'est accomplie. Tu as ouvert une porte à cette église. Je me souviens d'avoir reçu cette parole. On s'apprêtait, on était un tout petit noyau à Wavrin, on s'apprêtait à ouvrir l'église. Et puis je partageais dans mon enthousiasme un ami pentecôtiste. Il n'a même pas prêté attention à ce que je lui partageais. J'étais déçu. Pour lui, c'était pas l'église de Jésus-Christ, là. Non, c'était la sienne. Et dans ma déception, dans mon découragement, je me suis isolé avec le Seigneur. Le Seigneur m'a donné ce texte. Jean-Luc, j'ai mis devant toi une porte ouverte. me souviens que cette parole était prononcée dans notre ancienne salle. Tiens, Annette, baisse peut-être le machin là. Je vois pas Didier, ça me gêne. Voilà. Donc, dans l'ancienne salle de l'église, salle de l'Éden, un ministère prophétique est venu proclamer cette parole en 2000, Carlos Payan. Notre salle était pleine, il y avait 150 de la région, de partout. Et il a prononcé cette parole. Voici, j'ouvre une porte. D'ailleurs, j'ai même pas fait attention ce jour-là. C'est 2 ans après que je m'en suis rendu compte. Comme quoi, quelquefois, on est ailleurs, hein, en disjoncte. Hein. Mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et il n'y a pas longtemps, une année après qu'on ait ouvert cette salle et qu'on a vécu un désert, on peut dire, avec des familles qui ont quitté l'église, c'était douloureux. J'ai traversé un moment de découragement en 2005, et donc je l'ai déjà dit ça, hein, donc c'est un rappel pour certains, mais avec Annette, on était à l'église de Stanmore Baptist Church, on logeait dans une de ces familles, et puis un matin, j'ai lu tout un chapitre, c'était sur ce verset. Je descends déjeuner, celle qui nous reçoit nous parle d'une visite qu'elle a faite à Paris, et elle nous remet un tas de notes, tout est en anglais. Bon, donc elle me dit, voilà les notes que c'était John Mulindé qui avait parlé, mais il y avait juste 4 mots en français. La porte est ouverte. 4 mots. Juste en rapport avec ce que je venais de lire. Et je sentais le Saint-Esprit qui me dit, Jean-Luc, j'ai ouvert une porte. Courage, même si tu passes par une période creuse. Donc, voyez, cette parole a une place importante dans mon histoire, dans l'histoire de l'Église aussi. Et donc, j'ai demandé au Saint-Esprit, allez, Seigneur, enseigne-moi encore, à nouveau. J'ai parlé quelquefois sur la porte ouverte, mais je n'ai pas beaucoup parlé parce que tu as peu de puissance. Qu'est-ce que ça signifie? Tu as gardé ma parole. Qu'est-ce que ça signifie? La porte est ouverte. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, j'ai demandé ça au Seigneur. Parce que tu as peu de puissance. C'est pas un reproche, là, hein? Au contraire. Le Seigneur me ramenait tout simplement à la première des béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On l'a vu, ça, en cellule, hein, de maison. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui se sentent pauvres en eux-mêmes, dans leur vie intérieure, et qui par là même soupirent après les richesses de l'âme. Et dans un commentaire Godet, là, que j'ai lu, et je fais le lien avec l'introduction de Sandrine, il dit, c'est pas encore la repentance, mais c'est ce qui mène à la repentance. Alors voyez le lien, hein, avec ce qu'a partagé Sandrine. Tu as peu de puissance, oui. C'est cette attitude qui nous prépare pour la repentance. Cette attitude d'humilité. Le Seigneur m'a ramené au récit, un des premiers récits de la Genèse, Cain et Abel. J'ai souvent été marqué par ça. Comment est venu Abel devant Dieu, pauvre en esprit? Seigneur, j'ai rien à t'offrir. Que le sang de cet animal, j'ai besoin de ton pardon. Déjà, c'était une préfiguration de la croix. Il ne ramenait pas, quoi. Il ne roulait pas les mécaniques devant Dieu. Tandis que Cain, il a roulé les mécaniques devant Dieu. Regarde, Seigneur, tu fais tout ça pour toi. Vous voyez, dès le début du récit de la Genèse, on voit cette attitude. Pensons au récit du pharisien et du publicain. Le pharisien roulait les mécaniques devant Dieu. Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne mon aumône, etc. Et le publicain, Seigneur, sois apaisé envers moi. Je suis un pauvre pécheur. Nous passons individuellement et en Église par des périodes creuses, des périodes humiliantes. On l'a souvent dit ces dernières années, hein. Mais elles sont nécessaires, hein. C'est Francis Frangipane qui dit « Le don de la souffrance nous transforme à l'image de Christ. » Et c'est le roi David qui dit aussi, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Et Dieu se sert de nos périodes creuses qui comprend des échecs, où nous apprenons à tirer les leçons de nos échecs et nous apprenons l'humilité. Si d'autres s'amènent à la révolte, l'enfant qui craint Dieu tire de bonnes choses de toutes ces périodes. Et j'étais frappé par la parole prophétique que j'ai entendue jeudi soir, par un homme qui est déjà venu à cette église, tout simple, il n'a pas connu son nom, cherchez pas, vous le connaissez pas. Il s'appelle Bernard. C'est un barbu. Oui, ça vous dit quelque chose, Bernard, non? Bon, il est venu 2-3 fois dans l'église, quelques fois. On le voit de temps en temps des temps de prière. Et ce qui me frappe, ce Bernard, vous le regardez, il a un visage rayonnant. Tout simple, rayonnant. Mais il apprend l'humilité. Vous savez qu'il a une femme en chaise roulante. Et vous savez, une parole comme ça qui vient d'un homme qui a une femme en chaise roulante. Ouais. Et sa parole, c'était « N'ayez pas d'inquiétude quand vous traversez des périodes creuses. Souvenez-nous, l'agneau est passé par ces périodes. L'agneau était glorifié ensuite. » N'ayez pas d'inquiétude, mais il y a un temps pour tout aussi, il y aura une fin à ces périodes creuses, mais la gloire va venir. Nous avons besoin d'être dépouillés. Et c'était vraiment une parole forte. Hein, je lui ai demandé de me l'envoyer d'ailleurs, comme ça je vous la redonnerai. Venant en plus d'un homme qui passe par cette situation. Donc, tu as peu de puissance, rejette l'inquiétude, mais aussi la honte. La honte de ta fragilité ou de ta vulnérabilité qui nous éloigne de nos frères et sœurs en Christ. Beaucoup plus de chrétiens qu'on ne le pense, malheureusement, tombent sous le poids de la honte, de leur fragilité, de leur vulnérabilité. Et vont dans le repli. Ah non, je ne veux pas aller à la réunion, je suis trop faible, je ne suis pas digne, je ne peux pas aller à la réunion de prière, je ne suis pas digne. Alors qu'au contraire, si nous assumons notre fragilité et notre vulnérabilité, nous encourageons les autres. Nous devons apprendre à être les uns avec les autres vulnérables et fragiles et faibles. Paul n'a-t-il pas dit « parce que je suis faible, quand je suis fort ». D'accord ? Quand je suis faible, je suis fort. Et je me plais dans les calamités, dans les persécutions, etc., dans les outrages. Avoir peu de puissance, c'est ne pas compter sur sa sagesse et sur ses compétences, mais espérer en Dieu et en Dieu seul. Attendre tout de lui. Donc ne soyons pas inquiets pour les périodes creuses. Et ne tombons pas sous la honte, parce que tu as peu de puissance, mais aussi parce que tu as gardé ma parole. Il s'agit de la marche dans l'obéissance. Pas une obéissance rituelle, mais une obéissance de cœur, bien sûr. Pas seulement une obéissance à la doctrine biblique, heureusement il la faut, et nous les chrétiens évangéliques on aime être dans la doctrine de la parole de Dieu, et c'est vrai, on a raison, il ne faut pas tomber dans l'hérésie, mais là c'est beaucoup plus large. C'est aussi un amour de la parole. Ce n'est pas une soumission religieuse, d'accord, un amour de la parole. Chaque matin, en ce moment, le Seigneur m'invite, quand je prends mon petit déjeuner, à dire, bon, hé, n'oublie pas l'autre pain, hein, tu as un autre pain bien plus nourrissant à prendre. Il n'y a pas d'amour vrai du Seigneur sans amour de la parole, hein, d'accord. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Garder la parole, c'est aussi croire en les promesses de Dieu, malgré la longue attente, malgré les périodes creuses, malgré les circonstances contraires. C'est donc une obéissance de cœur, dans un amour de la parole de Dieu, dans une foi dans ses promesses, quelquefois des promesses prophétiques qu'on reçoit, c'est bon de se les graver sur notre cœur. C'est une obéissance jusque dans les petites choses, j'aime le redire, mais c'est très important, Je crois que notre vie abondante est souvent liée à ça aussi, hein, à ce qu'on puisse marcher dans l'obéissance, dans les petites choses que Dieu nous demande. Le Saint-Esprit nous donne, nous invite à des petites choses. Écris un tel, dis un tel mot à un tel, fais une demande de pardon à un tel. Alors moi, j'ai chez moi, dans ma chambre, à côté de mon ordinateur, une ardoise effaçable. Et je note comme ça des choses, des actes d'obéissance que Dieu me donne. Ah, je note aussi des impératifs administratifs, ça c'est utile aussi. Mais je note à côté des actes d'obéissance. Tiens, récemment, le Seigneur m'a dit, il faut qu'à tout prix que tu parles à ton comptable. Il est en train de faire une collection de masques africains, il y a des choses là mauvaises, il faut l'avertir. Ouais. Envoie une carte à telle personne qui a quitté l'église depuis de longues années, qui est loin de l'évangile. Je veux encore montrer que je l'aime, enfin voilà. Vous voyez, ces petites choses. On devrait toujours avoir un cahier ou un qu'importe, une ardoise ou un carnet, et on note ce que le Seigneur nous demande. Tu as gardé ma parole, oui, tu as obéi à ma parole, à mes petites choses que je te demandais. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes, d'accord? En ce moment, je suis travaillé par ça, sans arrêt. Vraiment, et donc... Parce que quelquefois, hop, le Seigneur nous a parlé, et 3 mois, 6 mois, 9 mois après, on n'a toujours rien fait. Hein? On n'a toujours rien fait. C'est une obéissance jusque dans les petites choses. Parce que tu as gardé ma parole sans renier mon nom, sans te révolter contre moi, hein, dans ces périodes creuses, dans ces moments difficiles, sans lui imputer à Dieu la responsabilité des maux, sans prêter à Dieu de mauvaises intentions. Tu fais cela parce que tu ne m'aimes pas, parce que tu m'abandonnes. Tu ne t'intéresses pas à moi. Quelque part, c'est renier, hein, Dieu. Je peux renier Dieu par mon attitude, vous l'avez compris, hein, je le renie quand j'endurcis mon cœur, en laissant place à l'amertume ou à la haine, ou quand je suis négligent aussi dans les soins que je dois porter à mes proches. Vous savez, celui qui néglige sa famille a renié la foi. Alors la promesse. Donc on a essayé un petit peu, j'ai fleuré, hein, je peux pas parler trop longtemps, j'ai fleuré, parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole sans renier mon nom. La promesse, je mets devant toi une porte ouverte. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ben, c'est tout simple, c'est d'abord, comme le dit Paul dans ses lettres, un accès à l'annonce de l'évangile. Paul dit, une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte. Les adversaires sont nombreux, 2 Corinthiens 2:12. La porte ne signifie pas qu'il n'y a plus de combat, hein, d'accord? Au contraire, la porte m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Mais ça veut dire qu'il y a une demande claire et manifeste d'une catégorie de personnes pour entendre l'évangile. Ici, c'est clair, à Wavrin, par exemple, Dieu a ouvert une porte grande et large pour les catholiques qui attendent les cours alpha, qui viennent nombreux quand on a une fête de Noël ou quand on a autre chose. C'est Dieu qui a ouvert la porte. Et je pense que ce qu'on a vu est certainement bien en dessous de ce qu'on va voir. Bien en dessous. Je le crois. Et ces deux rendez-vous qui sont là, cette conférence fin juin et ces cours alpha en septembre, vont nous permettre de voir beaucoup plus qu'on peut s'imaginer. Une grande porte est ouverte. Et voilà, Dieu ouvre des portes, donne un accès à une demande claire et manifeste des gens qui veulent l'évangile, qui veulent entendre l'évangile à travers nous. Christine qui a fait ce songe, ce rêve qu'elle voyait, la salle remplie ici, que le Saint-Esprit tombait. Alors j'y crois. J'y crois. Fort de cette promesse que le Seigneur nous redit encore ce matin. J'entends aussi dans cette porte ouverte un accès à l'expérience de la présence de Dieu qui nous accompagne. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Quelle est belle cette parole. Nous ferons notre demeure chez lui. C'est là l'intention profonde de Dieu pour nous. Il cherche à faire sa demeure quelque part, parmi des hommes et des femmes. Et quand il voit de ses enfants qui marchent dans l'humilité, une humilité profonde, cette volonté de marcher dans l'obéissance et de lui plaire, alors le Père et le Fils se réjouissent et se disent « Ah, voilà quelqu'un en qui nous pourrons faire cette demeure. Est-ce que vous aspirez à ça ?» chacun. Est-ce que vous aspirez à ça? Que le Père, le Fils viennent faire cette demeure en vous. Oh, il faut aspirer à ça. C'est cette attitude d'humilité, d'obéissance, hein, qui attire la réalisation de l'intention de Dieu pour nous. Le Père a glorifié le Fils parce qu'il s'est humilié. La gloire vient pour l'enfant de Dieu qui marche dans l'humilité, dans sa présence, pour qu'il fasse sa demeure. La gloire, la connaissance, l'expérience, la gloire de Dieu vient. Ne perdons jamais de vue cette intention profonde de Dieu. Ne nous appuyons pas sur nos programmes. On vient de boucler un programme là pour les 3 mois. D'accord ? C'est très bien, je m'en réjouis. Mais surtout, ne nous appuyons pas sur ce programme en oubliant l'intention profonde de Dieu. Que la prière soit pas la dernière roue du chariot. Sinon, nous sommes en danger. Ouais. Rappelons-nous le premier objectif de l'Église. Cherchez la vision de l'Église, vous trouverez le premier objectif. Cherchez le cœur de Dieu. Et je suis convaincu que c'est le premier objectif à maintenir. Parce que nous trouvons tout quand nous atteignons le cœur de Dieu. Et dans ce qu'a dit Elisabeth, oui, ça rejoint aussi. Nous avons tout en Jésus. Nous trouvons tout quand nous trouvons le cœur de Dieu. Et même l'unité à laquelle nous aspirons, c'est en cherchant le cœur de Dieu. Sinon, on va se tromper. J'ai entendu encore par débit jeudi soir, oui, quand on vient, quand on touche le cœur de Dieu, Dieu fait l'unité parmi ses enfants. Et j'en viens à une remarque importante. Nous devons cultiver la communion avec les hommes et les femmes qui cherchent le cœur de Dieu. Dans nos programmes, dans nos activités, y a-t-il de la place pour communier avec des hommes et des femmes qui cherchent le cœur de Dieu? Alors c'est l'église de Wavrin, certes, hein. Donc c'est la dimension du corps, mais la dimension du corps large aussi. Alors il y a quelque chose de nouveau dans le programme, vous verrez, c'est qu'il n'y a plus que notre prière communautaire. Bonjour. C'est presque la fin du culte, hein. Voilà. Allez, soyez bienvenus, on aura un temps de communion. Asseyez-vous. Bonjour Nathalie. Voilà, assieds-toi. Oui. D'accord. 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 Très bien. Alors vas-y Nathalie, reste. Je te ferai un résumé personnel après. Je te donnerai mes notes. Hein, parce qu'on est presque à la fin du culte. Hein. Voilà. Voilà, c'est le changement d'heure. Voilà, c'est ça. C'est le changement d'heure. Alors j'avais prévenu hein, les uns et les autres, j'avais dit ne vous moquez pas si quelqu'un arrive en retard. Hein. Voilà. Voilà. Ouais. Alors peut-être après... Oui, juste après. Oui, je vais terminer quand même. D'accord. Oui. Voilà. Très bien. Voilà. Mais votre présence, c'est encore un témoignage de la largeur du cœur de Dieu. Hein, qui fait que vous avez à cœur de venir ici. Voilà. Ça, c'est beau. C'est bien. Donc voilà, j'étais en train de dire l'importance de cultiver la communion avec ceux, les hommes et les femmes qui cherchent le cœur de Dieu. Et donc dans notre programme de réunion, il n'y a plus de veillée de prière, mais les temps de prière sont des temps de prière en dehors de la prière communautaire. Hein. Des temps de prière qui se passent ailleurs avec des hommes et des femmes qui cherchent le cœur de Dieu. Et je vous invite à venir rejoindre ces temps. Rejoindre au Château Blanc ou au Carme. Je vous assure que de se trouver dans une assemblée avec des hommes et des femmes qui cherchent le cœur de Dieu, on touche le cœur de Dieu, on est élevé. C'est pas un événement ordinaire. On est porté, puis Dieu qui se réjouit de faire sa demeure au milieu de ceux qui veulent l'accueillir, il s'empresse de venir dans sa vie. Et souvent c'est fort. Alors mettez dans votre programme des temps où vous cultivez, oui c'est vrai, pardon, je pense pas à l'enregistrement. Mettez ces temps où vous cultivez la communion avec le cœur de Dieu. Ouais. Cette porte ouverte que le Seigneur dit, on a commenté Apocalypse 3, Verset 8, voici je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Cette porte ouverte, souvent c'est les grands qui ouvrent des portes, c'est des hommes puissants qui ouvrent des portes. Eh bien Dieu dit qu'il est plus puissant qu'eux. Et donc si Dieu t'ouvre, toi, enfant humble, une porte, personne ne peut la fermer. Aucune institution, aucune personne, aucun roi, aucun gouvernant, aucun démon, aucune circonstance, rien ni personne ne peut fermer cette porte. Vous voyez qu'on a vraiment tout à gagner à prendre cette attitude d'humilité et d'obéissance. Humilité et obéissance pour atteindre le cœur de Dieu. Et pour avoir cette porte ouverte. Alors si vous lisez même un peu plus loin, Apocalypse, vous verrez que ce qui se rattache aussi à cette attitude, en plus d'une porte ouverte, eh bien il y a aussi la victoire sur Satan. Vous verrez, la victoire sur Satan. Je te donne ceux qui sont de la synagogue de Satan. Vous savez, parmi nos adversaires, quelquefois, il peut y avoir des gens manipulés par Satan, hein, qui viennent comme des adversaires, hein. On a certainement des adversaires, nous, ici. Hein. Ouais. Eh bien, c'est la promesse de la victoire sur Satan, qui peut utiliser parfois des religieux aussi. Hein. C'est aussi la délivrance du mal. Je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur le monde. Je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur le monde. Magnifique cette promesse. Alors c'est une parole qu'on a déjà entendue. Est-ce qu'on est bien aligné sur cette parole? Ça veut dire, est-ce qu'on croit que Dieu est en train d'ouvrir une porte et est-ce qu'on se met en chemin pour que Dieu continue de l'ouvrir? Dans cette attitude de peu de puissance, ça veut dire attitude d'humilité et de marche dans l'obéissance, qui prépare à la repentance aussi, hein, cette attitude d'humilité. Je vais relire cette parole en la paraphrasant, quoi, et en résumant un petit peu ce qu'on a vu ensemble, et on prend un petit temps de prière, d'accord? Et ensuite on prendra ce temps d'annonce où Nathalie, tu pourras partager, oui. Voilà. Alors je relis cette parole paraphrasée. Parce que, et je vous invite vraiment à vous mettre dans un petit temps de prière ensuite, hein, parce que tu as cette volonté de rester humble, loyal, sans artifice, sans rouler les mécaniques, d'accord? Parce que tu acceptes d'être dépouillé pour mettre ton espérance en moi seul, chérissant ma parole, croyant en mes promesses, ne doutant pas de mes intentions profondes et bienveillantes à ton égard, j'ouvre devant toi une porte ouverte que rien ni personne ne peut fermer. J'ouvre devant toi une porte d'accès à la communication de l'Évangile. Et surtout, je viens faire en toi ma demeure. Notre demeure, puisque c'est le Dieu trinitaire. Amen. Amen. Prenons un petit temps de prière.